Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Lapourdi et aujourd'hui nous allons parler scoutisme, sujet qui, j'en suis sûr, vous passionne, mais pour lequel beaucoup de mystères peuvent encore être percés. Rappelez-vous notre reportage début juillet sur le clan de Bayonne qui partait en route d'été avec celui de Bordeaux. Ils sont désormais de retour et ont beaucoup de choses à nous dire. Mesdames et messieurs, voici le récit d'une aventure digne d'un roman signe de piste. Je suis actuellement avec Louis Engrand qui a donc participé à cette route d'été dans les Causses de Millau en Aveyron. Bonjour Louis.
Bonjour.
Alors raconte-nous, comment était cette route ?
Elle était très spirituelle, assez dure on va dire, physiquement autant que psychologiquement on va dire, mentalement surtout.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la marche ? Combien de kilomètres avez-vous marché ?
Alors il me semble qu'on avait fait environ 275 kilomètres à la fourchette près.
Ah oui, c'est impressionnant. Où avez-vous marché exactement ?
Dans les Causses de Millau. On est parti de Millau, on allait jusqu'au lac, à un lac qui s'appelle le lac du Salagou, et on est revenu à Millau, c'est une petite boucle, c'était un bien grand mot, mais on a bien marché, l'itinéraire était vraiment sympa, c'était un paysage désertique, il faisait très chaud.
Tu as pu découvrir un peu ce qu'était la vie en clan durant cette route d'été ? Comment ça s'organise un clan ?
Un clan n'est pas du tout comme une troupe, on va dire. Il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est sur le même pied d'égalité. On est tous frères en quelque sorte, on doit tous se respecter les uns les autres, ce qui est bien logique. On vit de temps fort ensemble et c'est vraiment génial et beau.
Concernant les activités, à quoi ressemble une journée durant une route d'été ?
Alors durant une route d'été, la journée est très marquée, on va dire, par tout un programme. Le matin, on avait les laudes. Ensuite, on avait l'angélus tout au cours de la journée, donc le matin, le midi et le soir. Le soir, on avait les conflits et chaque jour, on avait la messe. Et la plupart des journées qu'on a passées, on marchait pas mal. Ensuite, on avait une heure route. En général, vers le midi, une heure route, c'est un temps de méditation sur un texte. Les trois derniers jours, on a rendu des services à des sœurs. Et du coup, les journées n'étaient plus dédiées à la marche, mais plutôt au service. Mais on gardait toujours les laudes, les conflits, l'Angélus et la messe dans la journée.
Question plus logistique à présent, comment vous dormiez ?
En fait, on avait plein de tentes. Une personne portait une tente pour 3 personnes ou 4. Et en général, certaines personnes s'étaient dispatchées à la tente. Il y en a qui prenaient les piquets, l'autre qui prenait la tente, l'autre qui prenait le double toit, etc., etc. Et donc, soit on dormait dans une tente, soit en fonction de la météo, on dormait à la belle étoile.
Et pour les lieux de bivouac, c'était pas trop compliqué d'en trouver ou c'était improvisé ?
Les lieux de bivouac étaient vus à l'avance, sauf deux. On a demandé chez l'habitant, on va dire, pour camper dans leur jardin ou dans leur propriété.
Donc une belle leçon d'humilité et de pauvreté.
Exactement.
Et concernant la nourriture, comment est-ce que vous faisiez pour tout transporter ?
On faisait l'intendance tous les 3-4 jours. On avait des points de des magasins, des grandes surfaces, où on pouvait aller tous les 3-4 jours. Et pendant 3-4 jours, en général, on marchait sans croiser un seul magasin. Donc les petits villages où il n'y avait rien. Donc on prenait à manger pour 4 jours, tous les 3-4 jours. Ouais.
275 bornes, une importante dimension spirituelle. Comment as-tu vécu la route ?
Alors, au début, c'était un peu difficile. La marche, les deux premiers jours, deuxième jour, elle était difficile. Le manque de volonté, tout ça. Spirituellement aussi, c'était difficile d'être exposé tant à la prière, j'étais pas trop habitué. Puis à partir du 4e-5e jour, je me suis plongé dedans et j'ai kiffé ça, quoi. J'ai adoré.
Tu as évoqué leur route. En quoi ça consiste exactement ? Vous avez un texte ?
On a un texte de l'évangile, un texte d'aide, c'est-à-dire une petite méditation qui a été faite, et des questions. Et à partir de cela, on réfléchit sur le texte, on essaie de répondre aux questions.
Concernant le retour à la maison à présent, après une telle expérience, ça fait déjà une semaine que tu es rentré du coup. Mm-hmm. Comment tu l'as vécu ?
Comme j'étais habitué à toujours faire quelque chose, toujours marcher, toujours aider, toujours rendre service, toujours. On avait toujours quelque chose à faire. Quand on rentre à la maison, donc au final, on fait rien, on est en mode bon, qu'est-ce que je vais faire ? Et du coup, ça. Il y a l'oisiveté qui vient, quoi. On se force à aider encore plus. Et je trouve que je suis beaucoup plus serviable qu'avant.
Oui, il y a la notion de service très importante à la route qui te permet de maintenir le cap en quelque sorte.
Exactement.
C'est des résolutions à prendre à la fin de la route.
Exactement.
Merci beaucoup, Louis Engrand, pour ce beau témoignage et bon courage sur le chemin de la sainteté.
Merci beaucoup.
Nous allons désormais interviewer Mathieu Lechevalier, qui était l'assistant du chef de clan de Bordeaux cet été et qui a donc grandement participé à l'organisation de cette route. Bonjour Mathieu.
Bonjour Guilhem.
Tu es donc ACC, assistant chef de clan. En quoi cela consiste-t-il ?
Tout à fait. Alors assistant chef de clan, on va dire qu'il y a plusieurs sujets. Donc déjà assister le chef de clan. La différence avec le chef de clan, c'est que ce dernier, il a la charge d'âme des jeunes. Donc c'est-à-dire qu'il s'engage vraiment à les porter de l'avant, les faire grandir vers la sainteté. Et moi, dans tout ça, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu toute la partie logistique à côté. Donc un petit peu dans l'ombre, c'est donner à fond pour le chef de clan pour qu'il puisse faire grandir les jeunes vers la sainteté. Donc voilà, donc j'assiste un peu dans la préparation des week-ends, dans la préparation des repas, des sorties, de la route d'été.
Cette route d'été notamment, comment est-ce que tu as fait pour organiser concrètement de quoi a besoin un clan pour que la route d'été se passe bien?
Pour que ça se passe bien, déjà une route d'été, donc c'est itinérant, donc il faut marcher d'un point A à un point B, on va dire. Ça demande à avoir un itinéraire, ça demande à préparer donc des menus pour l'intendance, pour nourrir les gars jusqu'à l'arrivée. Donc dans cette partie-là, voilà, c'était organiser un petit peu l'itinéraire tout d'abord pour rejoindre le lieu de départ. Donc cette année, nous avons fait ça en minibus, donc c'était trouver pour louer un minibus, et gérer les assurances, gérer un petit peu les points de rassemblement, voilà pour une première partie, et ensuite sur l'itinéraire, donc trouver des lieux de bivouac et puis dire un petit peu sur quel GR nous allons passer. Donc premier aperçu, de remplir tout ça dans un dossier qu'on appelle le dossier de clan. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut plus partir à l'aventure comme il se faisait un petit peu autrefois. Donc voilà, tout est bien ficelé. Les jeunes partent sereinement vers une belle route d'été. Et ça laisse toujours sa place quand même à quelques imprévus, à un peu d'aventure et à de très, très beaux moments.
Heureusement. Donc tout le côté administratif, c'est toi qui gères.
En partie.
Oui, en partie. C'est-à-dire que tu te reposes quand même sur les jeunes pour tout ça.
C'est ça. Il faut quand même la participation des jeunes parce qu'ils sont grands pour une bonne partie majeure. Et nous les préparons à être des adultes dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi des choses qui peuvent servir. Donc on les amène un petit peu à prendre des initiatives, à prendre des engagements, à appeler des personnes un petit peu. Voilà. Donc ils s'engagent aussi à nous aider sur la préparation de cette route d'été.
Et concernant plus le côté pédagogique de la route, est-ce que tu peux nous dire ce que ça nous apporte, ce que ça apporte à nous les jeunes? Qu'est-ce qu'on recherche en vivant une route d'été?
Tellement de choses. Donc pour prendre un petit peu les bases du scoutisme, donc il y a les 5 buts du scoutisme. Donc la santé, la formation du caractère, le sens du concret, le sens des autres et le sens de Dieu. Donc avec ces 5 buts, on va faire grandir le jeune pour qu'il soit pleinement lui, pour qu'il puisse vivre, pour qu'il puisse vivre avec un corps sain, voilà, dans une bonne organisation. Et la route, c'est un petit peu l'aboutissement de toute cette pédagogie parce que le jeune va vraiment vivre 2 semaines pour grandir. Donc il a vraiment des temps pour réfléchir sur lui-même, pour savoir où il en est dans sa vie, pour savoir où il veut aller dans la vie. Et tout ça, donc par la prière, par la marche, c'est ce qui fait vraiment rentrer le jeune en lui-même pour qu'il puisse se retrouver. Chaque jeune grandit un petit peu comme il peut, à son rythme, en fonction de là où il vient, de là où il veut aller. Et c'est ce qui est extraordinaire, c'est que chaque jeune avance et à la fois on vit vraiment clan. Cette année, nous étions 20, un groupe de 20 gars où chaque jeune arrive à trouver sa place, arrive à se donner aux autres pour vivre pleinement dans la vie à son retour de tous les jours.
Finalement, c'est une belle école de vie. Tu as eu une formation pour tout ça?
Alors, il y a des formations pour être chef de clan, on va dire 2 semaines en 2 fois, donc 2 fois une semaine pour être vraiment chef de clan. Pour ma part, je n'avais fait que des formations pour encadrer les louveteaux, donc c'est les 8-12 ans, pour avoir un petit peu la pédagogie louvetisme. Pour la pédagogie route, je n'ai pas eu de formation. La plus belle des formations, ça a été tous les échanges avec mon chef de clan, qui lui a eu ces 2 semaines et en plus il a fait une autre semaine pour être vraiment formateur. Donc il a vraiment une très très belle compétence sur l'organisation, l'encadrement des jeunes, qui a pu un petit peu m'aider aussi pour l'aider dans l'encadrement de cette semaine, de cette route d'été.
Et donc en assistant ce chef de clan, tu pourras toi-même devenir un bon chef de clan l'an prochain?
Alors voilà, ça a été un petit peu l'engagement. C'est une grâce que je reçois, c'est vraiment un très très bel engagement. Ça nous apprend à se donner encore plus aux autres. Donc par ce choix où je m'engage l'année prochaine à reprendre le clan, en effet, je vais m'organiser de façon à pouvoir donner vraiment au clan pour les faire grandir. C'est là le but vraiment de la route, c'est d'apprendre à se donner aux autres et à se donner à Dieu. Donc voilà, par le don aux autres, par le service, on se rapproche aussi de la sainteté, donc de Dieu. Tout cet équilibre fait qu'on vit pleinement et qu'on apprend à être un gars droit sur qui on peut compter dans la vie de tous les jours. Voilà, dans notre société où l'engagement, on ne sait plus trop ce que c'est, on ne s'engage plus dans le mariage, on ne s'engage plus dans les associations, on ne s'engage plus nulle part. on a besoin de gars comme des routiers, comme nous, les chefs de clan, pour s'engager, se dire, ben voilà, pendant un an, je vais tout donner. Voilà, je m'engage vraiment à faire grandir ces jeunes. Et ça, c'est inestimable dans notre société aujourd'hui. C'est magnifique.
Eh bien, je pense que ces jeunes-là te seront très reconnaissants, comme ils auront eu l'occasion de nous le témoigner. Merci infiniment, Mathieu Le Chevalier, pour ce témoignage poignant de l'idéal routier. Et je te souhaite un bon courage pour l'année prochaine.
Merci beaucoup et on compte sur vos prières.
Nous avons parlé des scouts, des routiers, mais qu'en est-il des jeunes filles? Vivent-elles le scoutisme de la même manière? Marie Durier a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Marie.
Bonjour.
Le premier camp scout a été organisé par Baden-Powell en 1907. Sais-tu quand est né le scoutisme féminin?
Il a été créé donc après le scoutisme masculin par des jeunes filles qui voulaient imiter leurs frères ou leurs amis qui du coup étaient guidées par Baden-Powell. Et Baden-Powell, en voyant le nombre de jeunes filles intéressées par le scoutisme, a décidé de créer la branche féminine.
Donc c'est Baden-Powell qui est vraiment à l'origine du scoutisme pour les filles?
Oui, normalement.
Au sein des scouts d'Europe, où les activités sont donc non mixtes, est-ce qu'il y a des différences avec celles des garçons?
Il n'y a pas tant de différences que ça. Il y a pas mal de topos ou d'activités qui peuvent différer, mais en général, c'est la même chose. Il y a les mêmes jeux, le même intérêt pour le spirituel. Enfin, normalement, c'est la même pédagogie.
Si c'est la même pédagogie, quel est l'intérêt de séparer filles et garçons pour ces activités?
Ce n'est pas la même chose d'éduquer des jeunes filles que des jeunes hommes. Et justement, le permettre de séparer les deux, ça permet de les éduquer mieux en quelque sorte.
Oui, pour qu'ils aient une vraie éducation plus adaptée.
C'est ça.
Tu as donc été cette année guide aîné, l'équivalent féminin des routiers au feu de Bayonne, qui est l'équivalent du clan. Comment vois-tu l'an prochain pour continuer le scoutisme?
Alors l'an prochain, je ne serai plus du coup sur Bayonne, mais j'espère quand même pouvoir continuer en étant peut-être assistante cheftaine auprès soit de Louvette ou de guide. Donc soit sur Paris ou alors essayer de venir aider celle de Bayonne occasionnellement.
Là, tu viens de passer une route d'été dont nous aurons le témoignage juste après. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous confier ce que t'as apporté cette année au feu?
Alors cette année au feu, moi j'ai trouvé que ça a bien aidé dans ma vie spirituelle parce que contrairement au guide, il y a beaucoup plus de topo ou de temps plus calme, enfin moins de jeu du coup. Mmh. Et justement les rencontres qu'on a pu avoir avec des pères, avec des sœurs, ça a pu du coup m'aider dans ma vie spirituelle. Et comme on était aussi un petit groupe, oui. On avait une grande cohésion. Mmh. Et donc ça, c'était bien. Donc on a pu apprendre à mieux se connaître, etc.
Tu as passé une très bonne route d'été et une très bonne année au sein du feu.
Très bonne année.
Merci Marie Durier pour ces explications. Nous couperons de mieux en mieux l'univers scout grâce à toi.
Avec plaisir.
Pour finir, je me retrouve en compagnie de Clémence Loubins, guide aînée au feu Sainte-Jeanne d'Arc de Bayonne, qui va nous raconter sa route d'été qu'elle a vécue avec Marie et deux autres guides aînés. Bonjour Clémence.
Bonjour.
Raconte-nous un peu cette fameuse route d'été.
Donc cette route d'été a duré 4 jours. Nous étions dans le Pays Basque intérieur, on est un petit feu de 4 personnes, plus l'abbé qui nous accompagnait, et c'était très sympathique.
Comment avez-vous organisé cette route d'été? Qu'est-ce qui se passait durant vos journées?
Donc on s'est bien répartis les rôles parce qu'on n'était que 4. Donc comme ça, c'était plus simple pour tous les services et toutes les tâches à faire. Donc quelqu'un se chargeait de l'itinéraire, les autres ont contacté les différents propriétaires et les numéros importants. Quelqu'un aussi se chargeait des repas.
Et votre itinéraire, vous avez beaucoup marché, dans quel coin êtes-vous allé?
Donc on a réparti nos 4 jours en deux temps, c'est-à-dire qu'on avait d'abord 2 jours de marche, puis 2 jours où nous étions restés sur place. Et on avait un service à faire chez le propriétaire. Donc les deux premiers jours, on avait un itinéraire qui a débuté d'Ioldi pour ensuite aller à Saint-Jean-le-Vieux, puis Saint-Jean-Pied-de-Port. Et au bout des 2 jours, quand nous sommes arrivés donc à Saint-Jean-Pied-de-Port, dans une ferme, et nous avons beaucoup aidé la propriétaire pour les animaux, tous les services qu'on peut rendre dans une ferme. Et on a fait des visites aussi dans Saint-Jean-Pied-de-Port.
Donc une belle activité de marche et de service vécue par ce feu de Bayonne. Concernant le côté plus spirituel, comment se passaient vos prières? Quelle place avait Dieu dans vos journées?
Alors une place très importante. Tous les jours, on devait faire notre moment lumière, donc un moment de méditation qui dure entre 30 minutes et 1 heure. L'abbé aussi nous accompagnait et nous faisait beaucoup de topo sur Sainte Jeanne d'Arc, puisque c'est la patronne de notre feu. Et nous avions aussi chacune prévu un topo avant de venir. Donc par exemple, moi, c'était la Sainte Trinité.
Donc ces moments lumière, l'équivalent des fameuses heures routes des routiers.
Exactement.
Votre service, concrètement, c'était un service à un propriétaire. Combien de temps ça a duré? Qu'est-ce que vous avez fait?
Donc ça a duré les 2 jours. C'était pas notre service à l'origine qui était prévu. Mais finalement, on s'est trouvé avec pas mal de travail à faire quand même, parce que c'est toujours aimable pour le propriétaire d'avoir des gens qui puissent l'aider, qui puissent lui rendre service. Parce que même si... elle était habituée à travailler seule, c'était bien d'être épaulée.
C'était une belle route d'été, est-ce que ça t'a plu?
Évidemment.
Et comment est-ce que tu vois l'année prochaine?
Alors personnellement, je sais que ça va être un petit peu compliqué pour moi de continuer le feu, mais je sais qu'il y a pas mal de guides qui comptent y monter, donc ça serait l'opportunité quand même de continuer le feu. Mais s'il n'y a pas de chef-ten pour pouvoir encadrer tout ça, je pense qu'elles auront l'occasion peut-être de s'unifier, enfin de se relier avec un autre feu.
Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça t'a apporté cette année au feu?
Eh bien, ça m'a beaucoup apporté sur le plan spirituel, vraiment, parce que ces moments lumière, donc les moments de méditation qu'on faisait à chaque sortie et chaque rencontre, on les faisait pas forcément au guide. Ça nous a permis donc de grandir sur notre foi et de nous poser aussi les bonnes questions sur notre avenir. Comme nous étions un petit groupe, ça nous a permis aussi de construire de belles relations entre nous et c'est vrai qu'on avait vraiment une bonne entente. Et même malgré le Covid-19 qui a perturbé nos sorties, etc., la route d'été s'est finalement quand même très bien passée, et même les activités antérieures.
Merci beaucoup Clémence Loubins pour ces réponses fort sympathiques et ce témoignage unique sur la route d'été du feu de Bayonne.
Merci à toi.
Merci à tous pour votre écoute très attentive, j'espère que le scoutisme n'a plus de secret pour vous et que les témoignages de ces jeunes qui décident de s'engager et de donner de leur temps pour servir leur prochain et vivre une aventure et des moments inoubliables vous aideront dans votre prière et pour votre cheminement vers Dieu. C'était Guilhem Ricourt-Dumas pour Radio Lapourdi, bonne journée à tous.